C'est loin d'être un hasard, cette libération des militaires maliens dont on n'avait pas trop habitude d'entendre parler du temps où la France servait d'eux à titre de bouclier humain et ce dans le cadre des opérations qu'elle avait le culot d'appeler opérations antiterroristes. Le jour où l'État malien qui vient de voter une transition de 5 ans au grand mépris de l'embargo décidé par l'Occident contre le Mali a envoyé balader Goodluck Jonathan, l'émissaire de la CEDEAO, les Maliens ont appris que leur fils venait d'être libéré, sain et sauf des amis des preneurs d'otages que RFI qualifie de djihadistes. RFI écrit, dans un communiqué, les autorités maliennes ont annoncé vendredi soir la libération de 17 militaires et un civil enlevés par des groupes armés. Certains d'entre eux étaient prisonniers de leur geôlier depuis 2019. L'identité des otages et les conditions dans lesquelles ils ont été libérés n'ont pas été données. Ibrahim Kébé, le commissaire principal de l'association politique Fasso Kanou, explique pourquoi Bamako n'a pas voulu livrer tous les détails. Décidément, ce qui intrigue les journalistes de RFI est avec eux. Les autorités françaises qui semblent avoir décidé de renvoyer leur Barkhane sous une forme et appellation nouvelle en Ukraine ou se venger de leur défaite cuisante au Sahel, car elles continuent de nier l'indéniable, à savoir que cette défaite, c'est le peuple malien qui leur a infligé et personne d'autre, c'est qu'elles ne savent pas comment cette mise en liberté a eu lieu. Et ils y vont de leurs spéculations et font parler, comme toujours, d'obscurs analystes, mais ça saute aux yeux. Le modus operandi de cette libération d'otages leur échappe pour la première fois. RFI dit, il y a beaucoup d'informations qui restent impossibles à obtenir aujourd'hui. Peut-être que c'est dans le souci de vouloir sauver les autres otages parce que les circonstances de leur libération n'ont pas été relevées par les autorités. Les FAMA ont arrêté beaucoup de terroristes ces derniers temps. Donc on peut se poser la question, est-ce grâce à eux qu'ils ont pu retrouver les otages ou est-ce que les terroristes ont négocié leur liberté contre celle des otages? En effet, si cette ignorance les intrigue, c'est que ces fameux djihadistes n'appartiennent pas à des réseaux habituels que les services secrets français ont mis 8 ans à créer à travers le Sahel et que la volonté de l'État et de l'armée malienne a fini par démanteler, et ce, dans la foulée de ce processus de réconciliation dont la France avait si peur et qui semble aujourd'hui déboucher sur un processus d'insertion sociale avec en toile de fond le retour des djihadistes au sein de leurs villes et villages, bref, sur une paix et retrouvailles intermaliens si chèrement acquis. Mais cela va dans l'air du temps. Au Sahel, l'étau se resserre de plus en plus autour de l'axe OTAN, non pas parce que la Russie est arrivée ou la Chine y est, mais parce que les Sahéliens sont décidés de prendre leur destin en main et de s'opposer aux puissances occidentales, et il faut prendre le terme s'opposer dans le sens littéral du terme. D'où cet autre article, là encore extrait d'un site français qui cite le chef d'état-major français Bucard, qui dit « Les mercenaires russes de Wagner tenteront de compliquer le retrait français du Mali ». À l'antenne de France 24, RFI, le 25 février, le général Thierry Burkhard, le chef d'état-major des armées, a estimé qu'il faudrait bien 6 mois pour mener bien cette réarticulation en bon ordre et en sécurité. Cette opération, d'un point de vue logistique, est quelque chose d'extrêmement lourd et complexe, avec des élongations énormes, un terrain abrasif, des voies de communication aléatoires, a-t-il ajouté. Au passage, il ne faut pas oublier que des convois auront à circuler durant la saison des pluies, qui commence fin juin, début juillet. Au-delà de l'aspect logistique, il y a également un véritable défi sécuritaire, a poursuivi le SEMA. Et la guerre en Ukraine pourrait avoir quelques répercussions au Mali, la Russie pouvant être tentée de gêner le retrait de Barkhane. La sortie est énorme et vise à faire du Sahel un terrain de règlement de comptes anti-Russie et à utiliser ce prétexte pour refuser de se retirer du Sahel ou pire, pour faire directement face à l'État-nation malien. Cela veut dire que les FAMA devront retourner ses armes contre Barkhane avant qu'elle le fasse comme elle en a l'habitude de le faire. En Guinée, Doumbouya roule la France dans la farine. S'il est vrai que le silence de l'Afrique clairement penché en faveur de la Russie dans l'affaire ukrainienne inquiète la France, il est aussi vrai qu'il y a des silences et des silences au Mali, la voix est nettement en faveur de la Russie, à qui les Maliens reconnaissent le droit de défense de ses intérêts. Mais en Guinée, où la France se félicitait il y a encore peu de s'être débarrassée du pro-russe Alpha Condé, le silence inquiète très clairement la France, qui exige une prise de position anti-russe, exigence intelligemment et radicalement repoussée par les autorités guinéennes. Au fait, c'est le second coup que compte jouer le général Doumbouya à la puissance colonialiste, le premier étant sa parfaite solidarité avec le Mali, quand les sanctions occidentales déguisées en celles de la CEDEAO sont tombées. Lisons cet article du RFI, c'est trop riche en enseignements. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, en milieu de semaine, la Guinée a refusé de prendre position. Conakry affirme observer la situation et attendre pour se prononcer sur le conflit en cours. Elle joue pour l'instant la carte de la neutralité. Venu rencontrer le ministre des Affaires étrangères ce vendredi, Joseph Kol, l'ambassadeur de l'Union européenne en Guinée, a insisté « Cette agression doit être condamnée », mais il n'a pas convaincu. Maurice Anda Kouyaté, le chef de la diplomatie guinéenne, lui a préféré temporiser. Pas question pour son pays de se ranger d'un côté ou de l'autre. Il faut comprendre, dans l'attitude de la Guinée, une prudence. Ça s'apparente un peu à ce que la Guinée a toujours expérimenté en termes de stratégie dans les relations internationales, analyse le politologue Kabiné Fofana Sousekou Touré, en était dans les non-alignés. Maurice Anda Kouyaté s'en remet à la CEDEAO, à l'Union africaine. Conakry s'inséra, dit-il, dans une réponse régionale, voire continentale, dans un contexte où vous avez à la fois des intérêts occidentaux, mais aussi des intérêts russes. La Russie a une expansion en Afrique. Il y a des investissements russes en Guinée, dont Rusal est un exemple. Jouer la carte de l'ambivalence est bénéfique pour l'État guinéen. Expliqué Biné Fofana, Maurice Anda Kouyaté a tenu à envoyer un message. La Guinée, depuis sa création, est attachée à la paix dans le monde. Nous souhaitons que la paix revienne rapidement. Au Tchad, un millier de personnes ont défilé ce samedi pour réclamer plus de sécurité et de justice à l'appel de la coalition d'opposition Wakitama, opposée au pouvoir. En plus des revendications locales, la marche a pris des actions anti-français. Luc Michel, géopoliticien, nous donne plus d'explications à ce sujet.
Non, ce sont les réseaux de Georges Soros qui ont tenté déjà en 2015 et l'année passée avant la mort du maréchal Déby, une révolution de couleurs. Leur agent, c'est un certain Success Masra, c'est un jeune politicien ambitieux et aux dents longues. Ils sont aidés par Georges Soros, par le Quai d'Orsay et par le département d'État américain. Leur but, c'est de déstabiliser le Tchad et d'installer un gouvernement pro-occidental. Ils sont malheureusement, depuis la mort du maréchal Déby, ils sont très organisés, en particulier sur les réseaux sociaux. Mais il y a un sentiment anti-français parmi la population et parmi la jeunesse qui est importé du Mali et du Burkina Faso. Et il y a eu des premières manifestations anti-françaises. Les réseaux de Georges Soros, ils entendent surfer sur ce sentiment anti-français. Vous savez que Soros sponsorise déjà, notamment le Ballet Citoyen, il y en a marre, de faux groupes panafricanistes au Sénégal ou encore au Burkina Faso, qui est le centre, l'école centrale des réseaux Soros. Ils financent des réseaux anti-France CFA, mais uniquement pour des raisons tactiques. Le but, évidemment, ce n'est pas de combattre la France, c'est d'installer les Américains un peu partout à leur place. Et alors, il y a encore un mot à dire, c'est-à-dire que le Tchad, depuis la mort du maréchal Idriss Déby Itno, c'est un pays qui est déstabilisé. Il y a des groupes de rébellion armée qui ne sont plus aux frontières du Tchad comme avant, notamment en Libye, mais qui sont directement sur le territoire national. Le général, le fils du maréchal, donc le général Déby, a tenté de les neutraliser en organisant des négociations avec 29 groupes rebelles, dont beaucoup sont des groupes politiques et pas des groupes armés. Le résultat, évidemment, c'est une certaine neutralisation des groupes rebelles, mais le danger est toujours là et la population est bien consciente que derrière les groupes rebelles, il y a les Français. L'avenir du Tchad, c'est un avenir incertain. C'est-à-dire qu'il y a une crise politique Et il y a des problèmes à l'intérieur du parti présidentiel, le MPS. Il y a notamment les gens qui soutiennent le général Déby, donc le nouveau président, et il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec lui pour des raisons qui sont des raisons claniques et familiales. Et donc, il y a eu un remaniement. On peut pas parler d'une purge, bien entendu, mais vous voyez notamment d'anciens ministres de Déby revenir aux affaires. Tout cela est très incertain. Il n'y a rien en attente pour le moment.
La première bourse dédiée aux obligations vertes, le Green Exchange, va être mise en place à Accra au Ghana pour financer les projets environnementaux en Afrique via l'émission d'obligations vertes pour les entreprises et la négociation de ces titres de dette sur un marché secondaire pour les investisseurs, annonce Bloomberg. Elle devrait être opérationnelle d'ici le mois de juillet 2022. L'Afrique, jusqu'à présent, a eu peu recours aux obligations vertes comme source de financement. Seule l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Nigeria ont émis des obligations vertes, alors que l'investissement mondial dans les obligations vertes devrait atteindre 1 000 milliards de dollars d'ici la fin 2022. Le marché africain ne représente que 0,4% de la base du marché mondial des obligations vertes, a déclaré Orlaine Wright, cofondatrice de l'initiative avec Diana Boadou-Amouatine. L'objectif de Green Exchange est de lever 5 milliards d'obligations vertes d'ici 5 ans, en particulier au Kenya, Ghana et Nigeria, pour financer notamment les énergies renouvelables, éoliennes, panneaux solaires et des logements durables. Le président Uhuru Kenyatta a officialisé son soutien à la candidature de son ancien opposant, Raila Odinga, pour la présidentielle du 9 août prochain, à laquelle il ne peut pas se représenter. Ce n'est pas une surprise, mais cela reste un revers pour son vice-président William Ruto, également candidat et avec qui les relations n'ont cessé de se dégrader. C'est au cours d'un meeting devant les leaders de son fief du Mont Kenya que le président Kenyatta choisit d'adouber son ancien rival. Il représente Raila Odinga comme le plus à même de défendre les intérêts du pays et exhorte donc ses partisans à appuyer la candidature de celui qui, à 76 ans, se présente pour la cinquième fois. Ce soutien était implicite depuis de longs mois. Le secrétaire général du parti d'Uhuru Kenyatta et plusieurs poids lourds du gouvernement figuraient même au premier rang lorsque Raila Odinga s'est déclaré candidat en décembre dernier. Le rapprochement entre les deux hommes remonte à leur célèbre poignée de main de 2018, qui marqua l'épilogue d'une crise post-électorale au cours de laquelle ils s'étaient farouchement affrontés. Le Sénégal baisse les prix de certains biens alimentaires essentiels en pleine flambée des prix mondiaux de nombreuses matières premières comme le blé, le maïs, l'huile de soja ou de palme, suite notamment à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le président du Sénégal, Macky Sall, a décidé en Conseil des ministres d'abaisser le prix de certaines denrées. Ainsi, le prix de l'huile est fixé à 1 100 francs CFA le litre, soit 100 francs CFA de moins, celui du riz brisé non parfumé à 13 750 francs CFA le sac de 50 kg, moins 1 250 francs CFA et celui du sucre à 600 francs CFA le kilo. Le Conseil des ministres a aussi décidé, afin de soutenir la production locale de riz, d'allouer une subvention de francs CFA 32 sur le kilo de riz padi, portant ainsi le prix au producteur à 162 francs CFA le kilo. Le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication de la RDC a lancé ce vendredi 25 février la commission permanente de suivi des victimes du vol des appareils mobiles en République démocratique du Congo, COSVAM, qui réunit le cabinet du ministre de PTNTIC, l'autorité de régulation des postes et des télécommunications, la police nationale et le parquet. Selon M. Léon Fanzou, coordonnateur adjoint de la commission permanente de suivi des victimes des appareils mobiles, la COSVAM a pour but de lutter contre le vol et les pertes des appareils mobiles en République démocratique du Congo. Il décrit les principaux objectifs de cette commission, entre autres faire le suivi et l'évaluation des cas d'appareils mobiles volés ou perdus et rechercher les appareils mobiles volés ou perdus.